Il y a 35 siècles, la plus mystérieuse reine de l'Antiquité règne sur l'Égypte avec son époux, le grand pharaon Akhenaton. La sublime Néfertiti, belle d'entre les belles, comme on la nomme à l'époque. Et c'est ici, au musée d'égyptologie de Berlin, mais aussi en Égypte, son royaume, que nous allons partir à sa rencontre pour tenter de lever les mystères sur sa personnalité hors du commun et sur son règne, celui d'une révolution spirituelle inouïe qui nous a livré tant de chefs-d'œuvre. Qui est-elle au juste ? A-t-elle autant de pouvoir que ses représentations le laissent penser ? L'amour de son époux, le grand pharaon, est-il aussi sincère que l'on voulait le faire croire ? Répondre à ces questions, c'est déjà s'intéresser à l'influence de ses prédécesseurs sur le trône, des souverains conquérants et bâtisseurs qui façonnent un royaume faste et prospère comme l'Égypte n'en a jamais connu auparavant. À commencer par le pharaon Amenhotep III, beau-père de Néfertiti, et Ti, sa redoutable belle-mère. C'est comprendre l'Égypte antique et ses nombreux dieux, le principal, Amon, dont le temple de Karnak et de Louxor célèbre la puissance. Mais aussi Aton, le nouveau, choisi exclusivement par la souveraine et le pharaon. Un premier monothéisme, une révolution. C'est bien sûr aussi vivre l'incroyable aventure d'une nouvelle capitale, telle El Amarna sortie des sables et décidée par Néfertiti et son époux. Partager avec eux leur quotidien, mais aussi celui de leur peuple, les loisirs, les repas, le statut si moderne des femmes de l'époque. C'est enfin se plonger dans les croyances toujours aussi fascinantes de l'au-delà. Grâce aux nécropoles de la Vallée des Rois, et aux momies à ce jour découvertes. Mais qu'est-il arrivé à celle de Néfertiti et d'Akhenaton ? Bien des mystères subsistent encore, avec, de jour en jour, de nombreuses révélations. Ce qui est certain, c'est que cette première tentative monothéiste de l'humanité n'a pas fini de nous fasciner, comme le sourire si noble et serein du buste de celle qui reste pour nous à jamais la belle d'entre les belles.
Vous écoutez Secret d'Histoire, Néfertiti, mystérieuse reine d'Égypte. Première partie. Nous sommes le 6 décembre 1912. Depuis un an, une équipe allemande d'égyptologues, menée par Ludwig Borchardt, fouille les vestiges d'une cité perdue, à 350 km du Caire, en plein cœur de l'Égypte. L'ancienne capitale du pharaon Akhenaton et de son épouse, Néfertiti.
Ils découvrent une riche demeure, la villa luxueuse.
Christian-Georges Fenzel, historien.
Où vivait le sculpteur en chef Toutmosis, qui était chargé par le couple royal de réaliser ces images officielles.
Cette équipe va pénétrer dans un lieu complètement mystérieux qu'on ne connaît pas encore.
Philippe Séguy, écrivain.
Et qu'est l'atelier de ce fameux Toutmosis. Il faut imaginer l'émotion de ces archéologues allemands. Ils vont découvrir un buste.
Le buste était enfoui dans le sable.
Marie Nyoyot, égyptologue.
Et Ludwig Borchardt va le dégager au fur et à mesure.
Là, stupéfaction, enchantement absolu, il représente une femme d'une beauté stupéfiante. Enfin, les hommes qui sont présents sont dans un état d'émotion intense.
Ludwig Borchardt s'est tout de suite rendu compte qu'il était face à une découverte exceptionnelle en raison de l'état de conservation.
Ce buste de calcaire et de stuc, aux couleurs à peine passées, modelé par le grand sculpteur de la famille royale, Toutmosis, et photographié par l'équipe de fouilles fascinée.
Il est extrêmement vibrant, vivant. On a l'impression d'avoir la reine en face de soi.
C'est une découverte fabuleuse. Ce buste serait celui de la plus sublime reine d'Égypte, la très mystérieuse Néfertiti.
Avant la découverte du buste, le nom de Néfertiti était connu des égyptologues, des historiens, vraiment des spécialistes. Mais c'est vraiment cette œuvre tout à fait extraordinaire qui va rendre Néfertiti universellement connue. Hein. Néfertiti devient une sorte d'icône.
Nouvelle icône révélée au grand jour, ce visage sorti des sables permet enfin de visualiser le physique hors du commun de la reine et ses origines.
On découvre quelque chose qui a l'air extrêmement vivant.
Virginie Giraud, historienne.
Ce buste est très précis. Thoutmôsis, le sculpteur, a voulu le rendre le plus réaliste possible. Quand on le regarde de près, on voit qu'il a travaillé le modelé du visage.
Elle a aussi les yeux maquillés, cerclés de maquillage noir, du kohl noir. Les sourcils également ont été redessinés. Un seul œil a été incrusté de cristal de roche, l'autre œil n'a jamais été posé.
D'habitude, dans l'art, il y a toujours des conventions. Souvent, on représente les femmes avec la peau plus claire que les hommes, généralement tirant sur des teintes de jaune, alors que les hommes sont représentés avec des teintes de rouge. Or, là, on a une Néfertiti dont la peau est teinte avec de l'ocre. Et on a vraiment le sentiment que on a voulu se rapprocher au maximum de la carnation naturelle de sa peau. Elle devait avoir une peau cuivrée, bronzée.
C'est une beauté égyptienne, une beauté très, très africaine. Elle a le teint mat.
Sa coiffe toute particulière renseigne, elle, sur l'étendue de ce qui avait dû être son pouvoir il y a plus de 3500 ans.
Une coiffe qui est assez inhabituelle pour les femmes, puisqu'elle porte en réalité une couronne qui est un attribut pharaonique, qui est une coiffe assez haute, bleue, et décorée d'un uraeus.
Uraeus, en égyptien, ou Yaret, c'est une divinité féminine. C'est à la fois la fille et l'œil du grand dieu du soleil, qui a pour fonction ici de protéger le front de la reine.
Si le port tout aristocratique et la finesse du buste ne cessent de subjuguer depuis sa découverte, la perfection des traits, si rare dans la réalité, jette un doute sur la représentation fidèle de ce qui aurait été le visage de la reine.
On s'est amusé à mesurer le buste, évidemment, et on a constaté que chaque portion du visage était remarquablement équilibrée.
Si l'on regarde l'emplacement des yeux, l'emplacement du nez, la symétrie du visage, qui est très très rare dans un visage réel.
Marc Gabold, égyptologue.
C'est un portrait parfait. Tout ceci correspond à des canons de beauté et d'idéal pour les anciens Égyptiens.
Alors ça ne veut pas dire que Néfertiti n'avait pas des traits qui correspondaient globalement à cette représentation, à ce buste, mais elle est quand même fortement idéalisée.
En quelque sorte, le sculpteur Thoutmôsis, c'est le Photoshop de l'Antiquité. Il a rendu Néfertiti parfaite.
Même idéalisée, la beauté de Néfertiti reste inégalable. De cette reine puissante à l'égal d'un roi, on ne sait presque rien. Mieux la découvrir, c'est déjà s'intéresser au couple royal qu'elle forme avec son époux, le grand Amenhotep IV, futur Akhenaton. Le plus incroyable des pharaons que l'Antiquité ait jamais connu.
Néfertiti apparaît pour la première fois dans nos sources au moment de son mariage avec le jeune Amenhotep IV. On est à la fin de l'an 3 ou au début de l'an 4 du règne de son époux. Ils ont entre 13 et 14 ans. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas vraiment d'adolescence comme on l'entend aujourd'hui. On passe directement de l'enfance à l'âge adulte. Les filles sont mariées dès leurs premières règles, voire même parfois avant. Et donc, on a vraiment affaire à un très très jeune couple.
Et on peut imaginer que cette proximité au niveau de l'âge a contribué à créer une certaine complicité, une tendresse entre eux.
C'est à cette même époque que le nom de Néfertiti apparaît pour la première fois sur un linteau du temple de Karnak, aujourd'hui exposé au musée du Louvre. Une présentation officielle, en quelque sorte, décidée par le souverain, tout juste marié.
La reine Néfertiti a son nom inscrit dans un cartouche. Le cartouche, c'est cet ovale qui contient les noms royaux.
Christophe Barbotin, conservateur en chef du musée du Louvre.
Néfertiti signifie « la belle est venue ». On ignore si c'est son nom de naissance ou si c'est un nom qui lui a été attribué lors de son avènement. Et à la limite, peu importe. Ce qui compte, c'est ce qu'il a défini. C'est le nom dans le cartouche précédé de l'épithète qui est très importante, Hemet Nesut Uret, en égyptien, qui signifie la grande épouse du roi ou grande épouse royale.
Néfertiti, c'est de toute évidence un nom qui est en relation avec la déesse Hathor, une déesse égyptienne traditionnelle, souvent représentée sous la forme d'une vache, parce que la vache symbolise la féminité, la fécondité, la fertilité, des choses extrêmement positives pour les Égyptiens. Et Néfertiti va d'ailleurs jouer aux côtés du pharaon ce rôle, une sorte d'excitant féminin pour son époux.
Native d'Égypte, la belle d'entre les belles ferait partie de la même famille que celle du pharaon.
De toute évidence, Amenhotep IV et Néfertiti sont cousins. C'est ce qui paraît le plus vraisemblable. Néfertiti est sans doute la fille de Haï, un personnage très important à la cour, qui est lui-même vraisemblablement le frère de la reine Tiï, épouse d'Amenhotep III et mère d'Amenhotep IV.
Son père, Haï, est un haut officier de cavalerie, certainement, et un grand dignitaire de la cour, et leurs familles sont très proches. Il est naturel de se marier entre soi chez les pharaons, on garde le pouvoir en famille, et l'inceste est quelque chose d'extrêmement banal. Pour les pharaons, le pouvoir a quelque chose de quasiment divin. S'ils sont pharaons, c'est parce que les dieux l'ont voulu. Donc il n'est pas question d'aller se mélanger à tout un tas d'autres personnes qui pourraient revendiquer le pouvoir. Donc pour cela, on va aller épouser les seules personnes qui soient dignes de vous, c'est-à-dire ses sœurs, éventuellement ses cousines. On voit même qu'il est assez fréquent d'épouser ses filles lorsque l'on a perdu ses épouses.
À peine sur le trône, une première représentation montre déjà la nouvelle reine telle que les Égyptiens imaginent les divinités. Une figuration qui n'a malheureusement pas survécu au passage des siècles. Être pharaon et reine d'Égypte, c'est dans l'Antiquité être considéré comme des dieux sur terre, des divinités incarnées que l'on ne cesse d'adorer.
Le roi agit comme un dieu sur terre.
Dimitri Labouri, égyptologue.
C'est le seul être humain qui est habilité à interagir avec le divin.
Le roi même se confond avec le dieu Horus.
Florence Maruéjol, égyptologue.
Horus est le dernier représentant de la dynastie divine qui est censée avoir régné sur la terre avant les pharaons. Le pharaon est l'incarnation d'Horus sur la terre.
Le roi doit présenter des offrandes aux dieux, il doit construire des temples, il doit également, et c'est là où ça touche un petit peu le domaine militaire et politique, agrandir les frontières de l'Égypte, et s'il ne fait pas cela, il peut être considéré comme un mauvais roi. Mais a priori, un roi est inspiré par la divinité, donc il est jugé en quelque sorte comme infaillible.
Mais en même temps, les pharaons ont été régulièrement assassinés, ce qui montre que les Égyptiens étaient parfaitement conscients qu'ils sont mortels et qu'ils sont des êtres humains.
Néfertiti et son époux, selon la tradition, doivent être remarqués de loin. Comme tous les rois et reines d'Égypte, ils arborent des attributs caractéristiques à leur statut divin.
Les couronnes pharaoniques sont tout à fait extraordinaires. C'est des couronnes qui devaient faire 40-50 cm de haut, qui prolongeaient la tête du roi et de la reine, hein, symboliquement en direction du ciel, justement, pour mettre en relation ce pharaon et cette reine avec les dieux.
Il va également porter, lors des cérémonies, d'autres attributs, tels que la barbe postiche, qui imite la barbe d'Osiris.
Il porte également le sceptre crochu, le sceptre Heka en égyptien, qui est une sorte de hiéroglyphe qui signifie « gouverner », et le flagellum qui renvoie également à son autorité souveraine.
Quant à la reine, elle peut avoir une sorte de fouet chasse-mouche, symbole de son autorité.
Incarnation des dieux, il est souvent difficile d'approcher librement la reine et le roi, même lors d'audiences privées.
Tout le monde se courbe en leur présence, tout le monde se courbe. Certains vont jusqu'à se coucher sur le sol. On ne peut pas baiser les pieds du pharaon, parce que comme c'est un dieu incarné, ce n'est pas possible, mais on baise le sol.
La civilisation égyptienne repose sur un mot qui est le mot de hiérarchie.
Au sommet de cette hiérarchie, à la tête d'un immense territoire, le pharaon gouverne. Il est entouré d'une foule de hauts fonctionnaires chapeautés par le premier ministre de l'époque, un vizir. Tous forment une catégorie de privilégiés, celle de dignitaires aux charges quasi héréditaires. En bas de la pyramide sociale, loin des yeux du pharaon et de la reine, vivent les paysans. Le scribe, quant à lui, privilégié d'entre les privilégiés, jouit d'un pouvoir et d'un prestige exceptionnel.
On a tous en tête l'image du scribe assis en tailleur, tenant devant lui des papyrus et un calame.
L'Égypte ancienne est une société extrêmement bureaucratique. On écrit tout, on note tout.
Par exemple, enregistrer des transferts de propriété, des héritages, des legs. Les scribes sont indispensables, ils sont partout dans la société égyptienne et ils assurent son bon fonctionnement.
Au moment où Néfertiti et son époux Amenhotep IV, futur Akhenaton, accèdent au pouvoir, l'Égypte n'a jamais été aussi riche et fastueuse. Nous sommes au Nouvel Empire, 1300 ans après la construction des pyramides, 1300 ans avant le règne de Cléopâtre.
On est à une époque où l'Égypte a vraiment un empire qui va de la Nubie, dans le Soudan actuel, jusqu'à la frontière syro-turque. C'est-à-dire une zone de contrôle immense, donc l'Égypte domine vraiment le monde.
C'est un pays extrêmement prospère, qui tire beaucoup de richesses du Nil, évidemment, de ses mines aussi, et de toutes les conquêtes qu'il a pu mener du côté de la rive orientale de la Méditerranée.
9 générations de pharaons se sont succédées avant Néfertiti, tous issus de ce nouvel empire. Certains laissent une trace exceptionnelle et des monuments toujours visibles lorsque la belle des belles devient reine.
Comme l'Égypte conserve en quelque sorte la mémoire des anciens pharaons, les grands ancêtres veillent sur les nouveaux souverains comme des figures tutélaires avec lesquelles, bien sûr, il va falloir compter.
Il y a eu de grandes figures de l'Égypte ancienne qui sont restées dans les mémoires. Le roi Toutmosis III, qui a régné à la fois très longtemps et qui a énormément élargi le domaine d'influence de l'Égypte. Et puis, on a aussi des femmes remarquables. Au début du règne de Toutmosis III, on a la reine Hatshepsut.
Hatshepsut a été capable, elle, femme, de monter sur le trône et de s'y maintenir. C'est certainement un exemple que la très jeune Néfertiti peut méditer, puisque c'est une pharaone.
C'est un couple de lumière, jeunes, beaux et charismatiques, qui dirigent maintenant l'Égypte. Ils sont les héritiers du royaume le plus prospère et emblématique de toute l'histoire égyptienne. À ce propos, laissez-moi vous présenter une curiosité. Le carnet de bord de Ludwig Borchardt, l'archéologue allemand à l'origine de toutes ces découvertes. Ce journal, il l'a tenu durant toute sa campagne de fouilles en 1912, une tradition pour tout égyptologue qui se respecte et qui se poursuit encore de nos jours. Borchardt y note toutes ses impressions du jour, une mine de renseignements pour tous les historiens d'aujourd'hui. Et à la date du 6 décembre, jour heureux de la découverte du sublime buste de Néfertiti, on peut y lire en allemand « Des couleurs, un travail extraordinaire, il ne sert à rien de la décrire ». Il faut juste la regarder. Pour la première fois, l'archéologue n'a pas pu trouver les mots pour détailler sa trouvaille. Il est totalement subjugué et tente, comme il peut, de la dessiner dans un coin. Un autre trésor se trouve ici à Berlin. Un visage d'une finesse inouïe, d'une réalité à couper le souffle. Celui de la belle-mère de Néfertiti, la reine Tille. Ce qui est sûr, c'est que la grande reine Tille a considérablement marqué le jeune pharaon et la sublime Néfertiti. au point de jouer sans doute un rôle non négligeable dans l'enfance, mais aussi lors des premières années de règne de ce nouveau couple solaire au pouvoir.
La reine Tilly est un modèle pour Néfertiti. Alors, c'est une reine qui s'est mariée très très jeune, comme c'était courant d'ailleurs à l'époque, elle devait avoir 8-9 ans au moment où elle a épousé le pharaon Amenhotep III, qui avait à peu près d'ailleurs le même âge. Elle n'était pas issue, à proprement parler, de la famille royale. On peut dire que c'est une roturière.
Tilly est la grande épouse royale. Cela signifie qu'elle a la fonction de reine. C'est la première épouse. Amenhotep III a différentes femmes, mais elle s'est démarquée des autres. C'est la plus proche du roi et c'est celle qui est présentée au peuple comme étant la reine.
On sait par la correspondance diplomatique de l'époque d'Amenhotep III que la reine Tilly a pu jouer un rôle diplomatique, un rôle politique, puisqu'elle était en contact avec d'autres souverains, partenaire du roi d'Égypte.
Une influence à la cour royale et auprès de son mari qui semble au fil du règne prendre une importance considérable. L'un des plus beaux témoignages se trouve au musée du Caire avec ses deux statues colossales de 7 mètres qui dominent l'atrium. Une présentation du couple royal voulue spectaculaire par le pharaon.
Ce qui est vraiment capital ici, c'est que la reine Tilly est figurée de la même taille que son épouse, qui est vraiment exceptionnelle. Auparavant, cela n'arrive jamais, la reine est toujours représentée plus petite. Là, ça met vraiment en avant son rôle capital à la cour royale et auprès de son mari Amenhotep III.
Cet ascendant sur le roi frappe très tôt la jeune Néfertiti. Comme certainement aussi la personnalité esthète et épicurienne du pharaon. Amenhotep III est un souverain qui entend faire prospérer un royaume déjà au sommet de sa gloire.
Il faut imaginer qu'il a vécu à l'époque où les frontières égyptiennes étaient à leur maximum. Donc l'empire était gigantesque et il a cultivé ses liens diplomatiques avec les peuples voisins en épousant des princesses venant d'autres royaumes. Donc il a constitué de cette manière un gigantesque harem.
Il a des centaines, voire 1000 femmes dans son harem. Donc, il est souvent représenté, ce qui n'est pas d'ailleurs forcément faux, comme une sorte de collectionneur de femmes passant son temps dans son harem. Un harem qui n'a pas forcément qu'une vocation sexuelle. C'est une sorte de club privé du pharaon où le pharaon va s'amuser.
Je pense que c'est un homme extraordinairement intelligent qui, très tôt, a fait le lien entre la beauté et la divinité. C'est-à-dire que louer les dieux, c'est passer justement par un esthétisme extraordinaire, c'est confier en quelque sorte au langage divin les éléments, les matériaux les plus précieux.
Étant donné les richesses dont il dispose, Amenhotep III va pouvoir se lancer dans des programmes de construction véritablement pharaoniques. Il va modifier le paysage monumental de l'Égypte ancienne en construisant des temples comme on n'en a encore jamais vu.
Le pharaon mène un vaste programme de construction qui voit émerger des temples dédiés à de nombreuses divinités dans toute la vallée du Nil. À Thèbes, sa capitale, il ordonne même l'édification d'un vaste sanctuaire qu'on appelle aujourd'hui le Temple de Louxor.
La cour d'Amenhotep III dans le Temple de Louxor est particulièrement spectaculaire. Amenhotep III a introduit dans le temple une architecture colossale, grandiose, avec ses colonnes qui mesurent une vingtaine de mètres de hauteur, qui sont écrasantes, et qui était l'accès majestueux à cette cour fermée.
C'est dans une résidence édifiée à Thèbes par ce roi esthète, le palais de Malkata, que le futur époux de Néfertiti passe une grande partie de son enfance.
On sait peu de choses de l'enfance du prince Amenhotep IV. On sait qu'il est un des derniers, sinon le dernier de la fratrie, qui compte 4 sœurs et un grand frère. Il n'était donc pas destiné au trône. Il y avait dans l'ordre de succession devant lui un prince du nom de Toutmosis qui aurait dû être le cinquième du nom.
Est-ce que ça signifie qu'il aurait bénéficié d'une éducation moins importante? Je ne le pense pas, dans la mesure où la cour égyptienne a les moyens, je dirais, de doter chaque petit prince d'une cohorte de savants, de précepteurs, de gens qui vont veiller sur son éducation.
Néfertiti a probablement grandi à la cour pharaonique. Elle devait faire partie de ces femmes qui gravitaient autour du harem. Et comme cet endroit n'était pas clos, il est plus que probable qu'elle ait rencontré Amenhotep IV très jeune.
Néfertiti, comme Amenhotep, ne se mêle pas à la vulgaire tourbe, comme on pourrait oser le dire à l'époque, c'est-à-dire aux paysans. Ils ont vécu tous les deux une enfance éminemment protégée. On ne respire pas, ça va jusque-là, hein, le même air. On ne mange pas, bien évidemment, la même nourriture. Tout est fait pour que cette chair divine, en quelque sorte, soit véritablement portée au pinacle.
Mais un événement tragique va bouleverser la vie pleine d'insouciance du jeune Amenhotep. Son grand frère, Toutmosis, disparaît subitement.
De fait, le jeune Amenhotep IV est propulsé au sommet de la hiérarchie.
Il sera pharaon alors que son destin, au départ, ne l'y conduisait pas du tout.
Le futur héritier n'a que peu de temps pour se former auprès de son père. Il assiste néanmoins au dernier chantier du roi bâtisseur, celui d'un majestueux temple funéraire le plus vaste que l'Égypte ancienne ait connu. Situé sur la rive ouest du Nil, il a aujourd'hui disparu. Seuls deux grands colosses en gardent encore l'ancienne entrée.
Chaque colosse est un monolithe de 800 tonnes et une vingtaine de mètres de hauteur. Ce sont les plus grands actuellement en Égypte.
Ourik Sourouzian, égyptologue.
Amenhotep a fait transporter ces colosses sur 700 km entre le Caire et ici, Thèbes, par le Nil. Et c'est à contre-courant, s'il vous plaît. C'est une tâche assez difficile, mais dont ils se sont acquittés à merveille.
Un transport hors du commun, qui ne s'est pas limité à ces deux colosses. En 20 ans de fouilles, l'égyptologue Ourik Sourouzian a exhumé sur ce site de nombreuses autres statues à l'effigie du pharaon. Deux d'entre elles dévoilent un aspect inattendu du roi.
Non, donc c'est la fin de la grande aventure de la construction de ce temple gigantesque. Et le roi, avec ses traits vieillissants, marque la fin de ce règne, je dirais.
Ce temple funéraire sera sa dernière grande réalisation. Après 38 ans de règne, Amenhotep III s'éteint.
Son fils Amenhotep IV, qui accède au trône, va procéder aux funérailles de son père. Et c'est aussi une manière de montrer qu'il est l'héritier légitime du pharaon. Donc c'est lui qui va organiser la procession qui mènera Amenhotep III dans la vallée des rois, puisque c'est là que ce pharaon avait fait aménager son tombeau.
On peut envisager l'angoisse qui étreint le cœur de ce jeune prince lorsqu'il devient pharaon. La charge est écrasante.
Amenhotep IV est très jeune, il a seulement une douzaine d'années. Évidemment, on ne va pas le laisser complètement seul au pouvoir. Même si son père l'a déjà préparé à prendre sa succession, il reste autour de lui des personnages très forts, comme sa mère, Tiyi, mais aussi Aï, le père de Néfertiti.
Pour asseoir son pouvoir, le très jeune pharaon va immédiatement honorer les dieux et s'inscrire dans la pure tradition des rois bâtisseurs. Sur les conseils de sa mère, Tiyi, il commence les travaux dans un lieu hautement symbolique, le temple de Karnak. Une imposante entrée y a été érigée par son père. Pour lui rendre hommage, Amenhotep IV choisit d'y ajouter une avant-porte qu'il fait décorer. Un vestige toujours visible de nos jours.
Le relief représente une scène tout à fait traditionnelle d'abattage symbolique des ennemis, où on voit le roi qui est en train de saisir une grappe de prisonniers par les cheveux et d'appliquer sa massue sur la tête des prisonniers. Amenhotep IV s'inscrit encore tout à fait dans la tradition. Il reprend des thèmes qui existent depuis le début de la royauté égyptienne.
Mais au bout de 3 ans de règne, le jeune pharaon n'a toujours pas de grande épouse royale. L'attention se tourne alors vers la nièce de Tilly, la jeune Néfertiti.
Tilly a une influence tout à fait réelle pour l'union d'Amenhotep avec cette jeune fille dont elle a certainement dû déceler, d'abord bien évidemment, la stupéfiante beauté, mais l'intelligence, la volonté.
Néanmoins, il doit être difficile pour elle, dans les premiers temps, de rivaliser avec la puissance charismatique de sa belle-mère. Donc il va lui falloir s'imposer progressivement sur la scène du pouvoir, et elle va le faire en tissant une relation intime très proche avec Amenhotep IV, qui finalement laissera de plus en plus de place à son épouse et relayera sa mère un peu dans les coulisses du harem.
Ce mariage marque également un grand tournant dans le règne du jeune pharaon. Car c'est ensemble qu'ils vont choisir de bouleverser les cultes millénaires de tous les dieux d'Égypte. Vous venez d'écouter Secrets d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secrets d'Histoire est un podcast d'Initial Studio adapté de l'émission de télévision éponyme produite par la Société européenne de production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Dominique Leb. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix d'Isabelle Benadj.